I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, l'info avec Mathieu Devez.
Bonsoir Christine, bonsoir à tous. La garde à vue de Gérard Depardieu a été levée. Depuis ce matin, l'acteur devait répondre aux accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes. Il est déjà mis en examen depuis décembre 2020. Pour viol et agression sexuelle après la plainte de la comédienne Charlotte Arnoux. Une trêve de 40 jours a été proposée au Hamas. Elle prévoit également la libération d'otages et de milliers de prisonniers palestiniens. Le secrétaire d'État américain appelle les dirigeants du mouvement terroriste à prendre rapidement une décision. Enfin, Gabriel Attal est désormais disposé à débattre avec Jordan Bardella. Jusqu'à présent, le Premier ministre n'envisageait qu'une joute avec Marine Le Pen. Et selon des sources gouvernementales, rien n'est décidé en termes de format, de chaîne ou de date.
Merci beaucoup à mon cher Mathieu Devez. Revenez quand vous voulez. Au sommaire ce soir, je vous ai demandé votre actualité. C'est vous qui avez décidé. Trois jours après le blocage des étudiants de Sciences Po Paris, Valérie Pécresse a annoncé suspendre tous les financements de la région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablis dans l'école. La Sorbonne a été occupée aujourd'hui après Sciences Po la semaine dernière par des militants pro-palestiniens. À l'appel des étudiants de Harvard et de Columbia, indiquent certains d'entre eux. Comment analyser ce qui se passe? Ces événements annoncent-ils un phénomène de plus vaste ampleur? Une sorte de nouveau mai 68, l'édito de Guillaume Bigot. À 6 semaines des Européennes, quelle est la force politique numéro 1 dans les événements de Sciences Po ou la Sorbonne? La France insoumise, qui depuis le 7 octobre joue à fond la stratégie du tout Gaza, axe central de leur campagne pour les Européennes. Mais est-ce une stratégie payante sur le plan électoral? L'analyse détaillée de Dimitri Pavlenko. À Neuilly-sur-Marne, un directeur d'école est victime d'être trop républicain. Cet homme, en poste depuis 15 ans, respecté de tous, est devenu le pestiféré pour avoir simplement souhaité appliquer les mesures du Premier ministre et de tenter l'expérience de l'uniforme à l'école. Les menaces étaient si terribles que ce matin, il a décidé de ne pas prendre son poste. Marc Menant raconte. À Châteauroux, dans l'Indre, ville où son père exerce le métier de restaurateur, Mathis, 15 ans, lui-même apprenti cuisinier, a été poignardé dans la rue par un Afghan du même âge que lui. Le jeune homme a été placé en garde à vue ainsi que sa mère qui aurait giflé l'enfant agonisant. Comment comprendre ces gestes abominables? Nous irons un peu plus loin ce soir pour analyser la volonté de taire l'origine du meurtrier présumé pour certains. Pourquoi cette injonction à la non-récupération? Le décryptage de Gabriel Cluzel. Et puis alors que nous sommes le seul pays de l'Union européenne à l'avoir, Emmanuel Macron envisage de mutualiser l'arme nucléaire. N'est-ce pas le cœur de la souveraineté française? N'est-ce pas le dernier bastion de notre force mondiale? Le coup de poing de Guillaume Bigot. Une heure avec nos mousquetaires, vous l'avez vu ce soir, Mathieu n'est pas là, Charlotte n'est pas là, on ne sait pas où ils sont. Mais on a Dimitri, Guillaume, Gabriel, Marc, allez c'est parti. Au cours de l'émission, je vais vous montrer une petite photo de Mathieu Bocoté.
Vous avez votre carte orange?
Non, je suis une orange.
Ah, un beau quartier.
En tout cas, ravi de vous recevoir. Ça va de vous recevoir ce soir, ma chère Gabrielle. Vous êtes avec nous pendant toute la semaine, c'est un plaisir.
Très heureuse aussi.
Nous aussi. Charlotte reviendra jeudi. Mathieu Bocoté est parti chez lui quelque temps, prendre un petit peu de vacances. Il a le droit. Hein.
La neige lui manquait, mais on le salue quand même.
Je ne sais pas s'il y en aura encore en mai, hein. Enfin, ceci dit.
Oui, c'est clair. En lui, donc, je vais vous montrer une petite photo de lui dans un instant.
Ah. Un jogging?
Non. Non, en bikini.
Ça, c'est méchant.
Je rêve de voir Mathieu en jogging.
Oui, c'est vrai, sans son costume. Alors, ce soir, c'est vous qui avez décidé des sujets, beaucoup de sujets d'actualité. On va d'abord écouter, on va parler de Sciences Po avec vous. C'est passionnant. Avant de parler de Sciences Po, je vais vous faire écouter un sonore. Un sonore de Gabriel Attal. Écoutez ce qu'il disait à propos de Sciences Po. Et on va voir un peu ce qui s'est passé ce week-end, ce qui se passe aujourd'hui à la Sorbonne et comment analyser tout ça.
Pas une fac, pas une école ne peut être au-dessus des lois. Pas une école, pas une fac ne peut les appliquer à la carte. C'est dit ici très clairement. Depuis des années maintenant, à Sciences Po, comme dans d'autres établissements, des débordements scandaleux se sont multipliés du fait toujours d'une minorité agissante et dangereuse. Et je le dis ici, je n'accepterai jamais qu'une fac ou qu'une école devienne la voie d'eau en France du déferlement d'une idéologie nord-américaine qui, sous couvert d'une certaine modernité, prône l'intolérance, le refus du débat, bride la liberté d'expression et les opinions contradictoires.
C'était le 19 mars. Aujourd'hui, Guillaume Bigot, alors que la mobilisation anti-israélienne prend de l'ampleur sur les campus américains, Sciences Po, qui avait déjà reçu Jean-Luc Mélenchon et dont l'un des amphis avait été interdit, et une étudiante juive était de nouveau interdite vendredi et ce week-end en pleine ébullition, on a envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Bon, je pense qu'on n'en est plus dans la voie d'eau. Hein. Monsieur Attal, c'est les chutes du Niagara à Sciences Po. Donc je vais essayer de vous expliquer. D'abord, pour comprendre, les apparences sont trompeuses. C'est vrai en général, c'est vrai dans cette affaire. C'est vrai à l'intérieur même de Sciences Po. Parce qu'en apparence, tout est rentré dans l'ordre. Il ne se passe plus grand-chose, il y a des examens qui vont démarrer. Ça peut sembler d'ailleurs assez banal, somme toute, que dans l'enseignement supérieur, des étudiants, qui plus est à Sciences Po, s'intéressent à une crise régionale, un enjeu géopolitique comme... la Palestine, c'est pas en soi d'ailleurs une cause injuste. Ça peut sembler banal, mais en fait, il n'y a rien de banal là-dedans. Alors d'abord, ce qui n'est pas banal, c'est que, moi je connais bien Sciences Po, c'est quand même un endroit assez feutré. Et ce qui s'est passé déjà en mars et ce qui vient de se repasser, il y a des relents d'antisémitisme qui sont extrêmement graves. Il y a surtout une minorité qui charrie cet antisémitisme et qui a pris en otage la majorité. Il y a plus de 13 000 étudiants à Sciences Po. Il y en a un peu moins de 10 000 à Paris. Et là, c'est quoi? C'est une trentaine d'étudiants de ce comité qui s'appelle Comité Palestine Sciences Po Paris, qui s'est montré particulièrement vindicatif, qui s'est installé avec des tentes, comme ils ont vu le faire outre-Atlantique, et ils ont pris en otage les 10 000 autres étudiants. Ce qui n'est pas banal non plus, c'est qu'ils ont été rejoints par des centaines de militants vendredi et samedi. Ce ne sont pas du tout des étudiants, hein. C'est des militants du comité Traoré, ce sont des élus ou des candidats de la France Insoumise. Tout ça fait grossir cette voie d'eau, hein, pour devenir vraiment un gros fleuve devant Sciences Po. Et ce qui n'est pas banal non plus, c'est que l'administration de Sciences Po a totalement capitulé. S'est mise à discuter avec ses étudiants, avec cette minorité agressive et agissante, en leur disant, écoutez, on va annuler les conseils de discipline qui étaient prévus pour perturbation et on va vous organiser ce que vous demandez, c'est-à-dire un town hall. Ça dépend si on prononce à l'anglaise ou à l'américaine. Town hall. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'ils demandent dans les universités américaines. C'est un débat, exactement, alors, le 2 mai.
Je peux me permettre une petite question.
Mais bien sûr.
Non, parce que tout le monde dit justement que Sciences Po a capitulé. Demander un débat, pour vous, c'est capituler? Question. Hein.
Oui, c'est une bonne question. C'est pas exactement capitulé. Bien sûr que ça présenté comme ça, non. Mais seulement, c'est un débat sur quoi? Je comptais en parler un peu plus tard, mais je peux en parler maintenant. L'objet du débat montre que c'est une capitulation parce que l'objet est indigne. L'objet, c'est faire pression pour annuler des accords avec des universités américaines ou israéliennes qui seraient accusées de sionisme. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose comme une pression d'une toute petite minorité qui se montre agressive et la direction, en fait, elle se couche. En fait, les apparences, je vous ai dit, sont trompeuses. Pourquoi aussi? C'est vrai à l'extérieur de Sciences Po. Donc on a cru comprendre, tout le monde a compris, on a vu qui tirait les ficelles, on a vu que LFI était à la manœuvre, d'ailleurs Dimitri va nous en parler, on est en pleine séquence électorale, sans doute ceci n'est-il pas étranger à cela, mais en réalité cette manipulation de LFI qui est bien avérée, hein, Jean-Luc Mélenchon était en Arménie, il a envoyé un message pour dire aux étudiants mobilisés pour la Palestine à Sciences Po, je cite, vous êtes l'honneur de la France. Et en fait les apparences sont trompeuses parce que tous ces gens-là, militants de LFI et étudiants de Sciences Po engagés pour cette cause, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent lutter, je cite, contre l'impérialisme américain et son complice sioniste. Mais c'est totalement ironique. Pourquoi c'est ironique? Parce que là, en fait, tout le monde, les militants de LFI, Mélenchon, les étudiants de Sciences Po mobilisés qui débrayent et qui bloquent l'Institut d'études politiques, sont dans un mimétisme total et même assumé à l'égard de ce qui se passe aux États-Unis. Ils s'installent dans des tentes comme ils ont vu faire à Yale et à Columbia. Ils déroulent des banderoles qui sont exactement les mêmes que celles qu'ils ont vu dérouler de l'autre côté de l'Atlantique. Ils chantent les mêmes chants, vous savez, de la rivière au Jourdain. Ils sont un archétype total de ce qu'on pourrait appeler l'aliénation coloniale à l'égard de la métropole états-unienne. Et aux États-Unis, par ailleurs, c'est vraiment un passé antisémite qui ressurgit. On l'a oublié, mais jusque dans les années 50, il y a des campus comme Harvard qui avaient des places limitées pour les étudiants juifs. La grande bourgeoisie WASP, elle était assez antisémite en réalité, jusque dans les années 50 aux États-Unis. Et là, ça ressurgit sous une autre version, qui est la version WASP, assez chic aussi, il faut dire, mais cette fois-ci, version woke.
Du Jourdain à la mer, hein. C'est pas de la rivière, mais bon.
C'est The River to the Sea en anglais, mais ils ont traduit du Jourdain. Mais il faudrait expliquer à Madame Panot effectivement que c'est bien la rivière du Jourdain.
Moi, on ne comprend pas comment une minorité peut faire la loi en France. Bon, qui est responsable de cette agitation à Sciences Po, Guillaume Bigot?
Je vais vous répondre, mais je réponds tout de suite à cette première question qui est très bonne. C'est pourquoi ils arrivent à faire la loi? Pas parce qu'ils ont l'idéologie dominante, l'idéologie de la métropole états-unienne, qui est la même que celle de la classe dirigeante et la même que celle de beaucoup d'étudiants à Sciences Po. Il suffit de singer ce que fait l'Amérique pour être dans le vrai, à Sciences Po en tout cas. Alors, en fait, est-ce que, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Moi, je pense qu'on peut distinguer les coupables des responsables. Il y a assurément des responsables. Ces responsables, c'est la direction de l'IEP dont je vous disais qu'elle a capitulé pour des mauvaises raisons que je vous ai exposées. À court terme aussi, le gouvernement, parce que M. Attal, on entendait tout à l'heure le 19 mars, il disait oui, finalement, personne ne va capituler devant l'idéologie importée des États-Unis, personne ne va capituler devant l'antisionisme sauvage et devant le wokisme. Mais bon, en réalité, Mme Sylvie Retailleau, qui est juste ministre de l'Enseignement supérieur, a félicité la direction de Sciences Po pour avoir empêché le blocage de l'université. Autrement dit, pour avoir cédé à la minorité agissante. Donc on voit bien qui sont les responsables. Les responsables à plus long terme, c'est à la fois la direction de l'IEP. À partir du moment où feu Richard Descoings a été nommé ou est arrivé à la direction de Sciences Po, c'est au moment où je quittais l'Institut d'études politiques, il est arrivé, il faisait sa campagne en quelque sorte. Et bien là, on savait quel était son programme. Déjà à l'époque, discrimination positive. Derrière la discrimination positive, il y allait avoir des cours sur le genre, il y allait avoir des masters sur le genre, sur la décolonisation, et on allait importer massivement cette idéologie. Tout le monde, quasiment, est obligé de parler en anglais aux étudiants français. Des professeurs français sont sommés de faire des cours en anglais. Enfin, on n'imagine pas jusqu'au à quel point l'américanisation et l'aliénation américaine est poussée. Voilà. Et donc, on voit bien que ce cercle de la raison, ce temple de la raison républicaine, qui était un peu l'antichambre de l'ENA, le cercle de la raison, comme dirait Alain Minc, s'est mordu la queue, en quelque sorte. Voilà. Et la tête de l'État, au sommet de l'État, Emmanuel Macron, avec ses déclarations sur la culture française qui n'existe pas et sur la colonisation, pardon, est un crime contre l'humanité, il a totalement abondé dans ce sens. Là, ce sont des responsables. Mais derrière ces responsables, il y a des coupables. C'est beaucoup plus grave. Coupables sont ces militants qu'on a vus avec des mains rouges, vous savez, des mains recouvertes de peinture rouge. En fait, c'est, les gens pensent que c'est par solidarité avec les civils à Gaza qui meurent sous les bombes. Mais pas du tout. C'est une allusion à une scène atroce qui a eu lieu le 12 octobre 2000. On était alors en pleine intifada. Et il y a deux soldats israéliens qui ont été kidnappés, lynchés et éviscérés par la foule. Et il y a des gens qui ont brandi des mains couvertes de leur sang à un balcon à Ramallah. Et donc c'est un signal codé pour tuer des juifs en réalité. Donc c'est très grave ce qui se passe. Coupable encore, eh bien évidemment les militants LFI qui manipulent cet islamisme, cet antisémitisme islamique, parce qu'ils se font évidemment les complices de qui? De ceux qui, en France comme aux États-Unis, sont obsédés par un mot. Obsédé par un mot, c'est le mot de génocide. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait critiquer la politique israélienne, on peut évidemment, qui ne voit pas qu'il y a des dégâts collatéraux monstrueux à Gaza, peut-être même qu'un jour on dira qu'il y a eu des crimes de guerre, mais un génocide c'est complètement absurde évidemment. Mais il faut qu'il y ait un génocide. Alors pourquoi il faut qu'il y ait un génocide? Parce que ça a pour effet, d'une certaine façon, de couper l'herbe sous le pied, d'annihiler la légitimité de l'État d'Israël d'une certaine façon. Ceux qui ont été génocidés par les nazis deviennent à leur tour coupables d'un génocide, et donc on peut détruire leur État, et mieux encore, on peut les génocider. Et puis il y a tous ces idiots utiles du wokisme, je pense qu'ils sont absolument coupables. Coupables de leur ignorance, de la mer au Jourdain, on se souvient que Mme Panot ne savait pas où situer le Jourdain. Et il y a un universitaire qui s'appelle Jacques Tarnero qui parle du mariage de Simplet et de Cruella pour les décrire. Parce qu'en fait, ils sont dans l'amazo au sens de masochisme, gauchisme. C'est-à-dire que le jour où les gens qu'ils soutiennent prennent le pouvoir, eh bien, ils seront les premiers, ces féministes, ces militants LGBT, à passer à la casserole, d'une certaine façon.
Ces événements à Sciences Po, à Harvard, est-ce qu'ils annoncent un phénomène de plus vaste ampleur? Est-ce qu'ils peuvent faire tache d'huile? Est-ce qu'on peut aboutir à un mai 68? On sent un petit air, on a envie de se poser la question.
Oui, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup d'analogies finalement avec ce qui s'est passé en mai 68. D'abord, on est au mois de mai. Bon, il y a certains qui auraient envie d'annuler les examens. On pourrait imaginer que ça se propage. Ensuite, comme en mai 68, il y a une crise géopolitique. À l'époque, c'était le Vietnam. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Gaza, qui sert d'abcès de fixation anti-impérialiste. Aujourd'hui, comme à l'époque, il y a une jeunesse qui est toujours la même. La jeunesse est toujours la même. Ça, elle a un goût romantique pour la radicalité. Elle a envie de chasser ses prédécesseurs et elle va se nourrir d'une espèce de brouet idéologique pas très clair à base de marxisme à l'époque et aujourd'hui à base de wokisme.
Une certaine jeunesse, pas tous.
Une certaine jeunesse, vous avez parfaitement raison de le préciser. Ce dont on parle là, mais c'est pas... Justement, je disais qu'à Sciences Po, ils étaient une minorité. Vous avez raison. Mais comme en mai 68, hein, c'est un phénomène qui traverse le monde occidental. On le voit sur les campus des universités américaines, on le voit dans les grandes capitales européennes, à Berlin, j'étais à Londres, il y avait encore des manifestations monstres pour la Palestine. Donc on se dit qu'il faudrait une étincelle pour mettre le feu à la plaine. Mais je crois qu'il n'y aura pas de second mai 68 pour deux raisons au moins, et je terminerai là-dessus. Premièrement, déjà hier, au moment où la bourgeoisie de mai 68 annonçait des slogans marxistes, trotskistes, etc., on peut dire que les ouvriers de Renault-Billancourt ou les combattants Viet Minh sous les bombes américaines ne s'intéressaient pas du tout à ce que racontait la jeunesse du quartier latin. Aujourd'hui, disons, le fossé entre ceux qui défendent la cause palestinienne et ceux qui sont à Gaza est encore plus important. Le fossé entre ce qu'ils défendent, ce qu'ils croient défendre avec le wokisme et, disons, la situation de ce peuple fantasmé, descendant d'immigration dans les banlieues, ce fossé, il est considérable. Il y avait une coupure sociologique, hein, il y a en plus une coupure culturelle qui est encore plus nette. Ensuite, souvenez-vous d'ailleurs, tous ces gens-là, LFI pour commencer, mais aussi tous ces militants du wokisme, pensent pouvoir allumer d'une certaine façon la révolte des banlieues. Mais en fait, ils ne contrôlent pas du tout ce qui se passe dans les banlieues. Souvenez-vous du député Bilongo qui avait essayé d'exciter les cités, les racailles, après la mort de Naël. Il s'est pris des coups de bâton sur la tête. Mmh. Et enfin, la deuxième raison, c'est que je pense que la bataille culturelle, elle n'est pas du tout gagnée par le wokisme. Et justement, ce ne sont pas tous les étudiants, c'est une partie des étudiants. Je pense que l'équivalent du marxisme aujourd'hui, ce qui a gagné la bataille culturelle, c'est plutôt une pensée que j'appellerais critique, une pensée populiste, une pensée patriote, d'aucuns diraient une pensée réactionnaire, elle peut être un peu conservatrice, elle est républicaine, mais en tout cas elle ne me semble pas du tout, mais pas du tout, soutenir la cause ni des woke, hein, ni la cause, ni de voir dans le soulèvement des Palestiniens et des banlieues, le soulèvement du sel de la terre.
Ça donne à réfléchir tout ça. Regardons par exemple le tweet de l'ayatollah Khamenei hier soir, 21h58, et puis quelques images aussi qu'il a diffusées. Je vous montre, hein, vous allez réagir en direct. Voyez ce qui se passe dans le monde, même dans les pays occidentaux, Angleterre, France, différents États américains, etc. Les gens marchent en grand nombre dans les rues, scandant des slogans contre Israël et les États-Unis. Ils sont déshonorés. Ils n'ont aucun remède à cela. On va voir les petites images qu'ils diffusent également. Je ne sais pas si on m'entend, je peux continuer à parler. Et ce que je veux dire, peut-être Guillaume ou Dimitri, puisque vous êtes sur ces sujets-là, est-ce que, justement, ces jeunes qui manifestent, qui sont là à la Sorbonne et qui étaient à Sciences Po, ils ont conscience d'être manipulés?
Alors moi je vais même vous dire deux choses. D'abord, je découvre qu'il y a un compte FR Khamenei. Donc l'ayatollah Khamenei communique en français, il y a un canal de communication en français. Non, moi je vais vous dire autre chose, c'est que la fable des étudiants de Sciences Po spontanément émus par le malheur palestinien, c'est faux, c'est pas vrai. Vous savez, ce qui se passe à Sciences Po, c'est que vous avez un collectif qui s'appelle Urgence Palestine. Je le tiens de Pauline Condomine, dont j'ai déjà parlé, qui a signé cette enquête dans le Livre Noir. Elle a retrouvé tous les gens du collectif Urgence Palestine qu'elle a croisé durant son enquête aux abords de Sciences Po. Ne se cache pas, ils sont là. Et comme la plupart des journalistes ne les connaissent pas, ils ne sont pas identifiés comme tels, mais Vous voyez, c'est extrêmement bien organisé. Et ce ne sont pas des gens qui ont pour agenda politique de défendre les Gazaouis, de défendre les Palestiniens. Mais comme d'habitude, les Palestiniens sont les premiers manipulés du monde arabe. Ces gens-là, les gens qui sont à la manœuvre de ces mouvements-là, militent pour la destruction d'Israël. Et ce n'est pas étonnant que l'ayatollah Khamenei communique dans ce sens-là sur ses réseaux sociaux.
Poursuivons sur le sujet. On a vu ces derniers jours, Dimitri, la force politique numéro un en ce moment à Sciences Po, en tout cas la plus bruyante, c'est la France Insoumise, qui depuis le 7 octobre, je le disais en titre, joue à fond la carte et la stratégie du tout Gaza. C'est l'axe central, pour ne pas dire l'axe unique de leur campagne pour les européennes. Et on a envie de savoir, est-ce que cette stratégie, elle est payante? On a envie de savoir un petit peu, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette stratégie? Parce qu'on ne voit que cela. Est-ce que ça paye?
Écoutez, si les européennes, c'était uniquement à Sciences Po, ce serait très très payant. Jean-Luc Mélenchon, il y avait une enquête qui avait été menée auprès des étudiants de Sciences Po. Il fait 55% au premier tour de l'élection présidentielle, dans le panel très restreint, vous me direz, des 15 000 étudiants de Sciences Po. Il y a plus d'un étudiant de Sciences Po qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2022. Bon, évidemment, Sciences Po n'est pas la France. Mais bon, cette stratégie du tout Gaza, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Guillaume l'a un peu dit, c'est réduire le message de la campagne des européennes à la seule cause palestinienne et surtout la dénonciation du génocide de Gaza. Donc autrement dit, si tu pleures pour les Palestiniens, vote pour la France insoumise. C'est ça, ce que nous avons appelé la stratégie du tout Gaza. Alors pourquoi faire de Gaza la clé de voûte de sa campagne? Est-ce que c'est payant? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que depuis le 7 octobre, c'est clairement le thème politique le plus conflictuel et celui qui vous isole le plus clairement de la majorité. Il y a une conscience très aiguë, je pense, à la France insoumise, que ce n'est pas une cause majoritaire dans le pays. La cause palestinienne n'est pas majoritaire. Il y a beaucoup de gens que ça met mal à l'aise de se dire, si on leur disait « tu dois choisir ton camp », parce que c'est ça, c'est choisi ton camp camarade, en fait, cette affaire aussi israélo-palestinienne. Mais chez LFI, comme l'essence de la politique, c'est le conflit, et bien justement, c'est un thème qui, naturellement, sur lequel ils vont se positionner. C'est ce qu'ils recherchent. Ça leur permet de mettre des coups aux autres, et d'en prendre, et de mettre en scène, finalement, ces coups qu'on leur assène. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il parle jamais de ses adversaires politiques, il parle de ses ennemis. Et il en parlait avant le 7 octobre. Pourquoi Gaza aussi? Parce que c'est un thème qui est cher d'abord à la jeunesse de gauche, par identification, parce qu'on dit toujours la jeunesse palestinienne. Vous savez, le Palestinien est éternellement jeune. Et parce que la jeunesse, je vous l'ai dit, c'est le point fort de la France insoumise. J'ai donné le chiffre, le score de Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po pendant la présidentielle 2022. Si vous prenez au niveau national les 18-34 ans, à 34%, cette tranche d'électeurs a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle en 2022, 34%. Voyez.
En parlant de jeunesse de gauche, on donnera la parole à Marc Menand dans un instant.
De gauche. Alors, revers de la médaille, en revanche, pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, c'est que ces jeunes, ces 18-34 ans qui votent beaucoup pour la France Insoumise, qui votent aussi beaucoup pour Marine Le Pen, c'est aussi la tranche de l'électorat qui vote le moins, avec une abstention qui frôlait quand même 45% lors du premier tour de l'élection présidentielle 2022. Gardez en tête qu'on vote toujours plus à la présidentielle qu'aux européennes. Donc il y a un effet multiplicateur de l'abstention aux européennes. J'y reviendrai. Enfin, Gaza, pourquoi? Parce que le gauchisme considère que c'est la cause qui va leur attirer les voix des racisés. C'est les racisés, donc c'est tous ces gens à qui on explique qu'ils devraient se reconnaître en fait dans la figure du Palestinien, qui est le damné d'Israël. Israël symbolisant l'Occident capitaliste, colonial, génocidaire, etc. Donc vous voyez, Gaza active le ressort du sentiment d'humiliation qui est présent, notamment chez beaucoup de populations immigrées, notamment dans la culture arabo-musulmane depuis fort longtemps, depuis les croisades, vous voyez. Et donc tout cet imaginaire extrêmement puissant, le logiciel révolutionnaire de la France insoumise considère qu'il a intérêt à s'y arrimer parce qu'il y a un effet un petit peu de concentration, si vous voulez, de ses propres thématiques.
Alors, on va marquer une pause et je vous demanderai dans un instant comment ça se déploie dans la campagne des Insoumis. Est-ce que ça fonctionne vraiment? On en parle dans un instant. Notre jeunesse de gauche nous répondra un peu à cette question. Est-ce qu'elle se sent...
Très jeunesse.
Le regard, justement, sur cette stratégie de LFI. On parlera avec vous de ce directeur d'école à Neuilly-sur-Marne qui, ce matin, a décidé de ne pas aller en cours. On verra pourquoi. Avec Gabriel Cuzel, on parlera de Matisse, 15 ans, poignardé. Et puis vous, le coup de gueule final sur le coup de poing final, sur l'arme nucléaire. Emmanuel Macron veut partager notre bijou de famille.
C'est risqué, l'arme nucléaire. Un coup de poing sur une arme nucléaire.
Très risqué. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Ce soir, on est avec Dimitri. On est en train d'analyser ce qui se passe en ce moment à la Sorbonne Sciences Po. Se dire que LFI est au centre de ce qui se passe sur place. On dirait qu'il récupère, pas on dirait, il récupère tout cela pour les Européennes. Est-ce une stratégie payante? Alors, comment ça se déploie dans la campagne des Insoumis?
Alors,
pour
vous
les Européennes, à six semaines des Européennes.
Absolument. Alors, vous avez d'abord eu le... Ce n'est pas chronologique, mais les événements majeurs, je considère que le 6 mars, c'est la mise sur orbite de Rima Hassan, véritablement, qui a acté le fait que, d'un coup, la cause palestinienne, l'idée du génocide à Gaza, ça devient le cœur du réacteur de la France insoumise dans cette perspective des Européennes. Et Rima Hassan, alors elle est numéro 7 sur la liste emmenée par Manon Aubry.
Mais
c'est la star. Il y a qu'elle ou presque. Elle s'assoit à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Elle est pratiquement plus près de lui que ne l'est Manon Aubry. Où est Manon Aubry? Enfin, ça, c'est quand même assez ahurissant. Elle a totalement disparu. J'ai entendu Antoine Léaumont, donc l'une des figures de la France insoumise, dire... sur l'antenne d'une radio le matin, le 9 juin, votez Rima Hassan. Vous voyez, donc ils font disparaître leur tête de liste. Alors Rima Hassan, en deux mots, c'est intéressant parce que qui est-elle? Je ne vais pas vous faire le portrait exhaustif, mais j'ai retrouvé cette petite chose. Elle avait une petite notoriété déjà l'an dernier. Elle perce médiatiquement dans le courant de l'année 2023, à tel point que Forbes, le magazine Forbes, l'avait listée fin août parmi les 40 femmes qui ont marqué l'année et fait rayonner la France à l'international. À l'époque, elle est présentée, Rima Hassan, elle n'est pas encore engagée avec la France insoumise, comme la fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Et alors là, je cite Forbes, sa mission, parle de Rima Hassan donc, étudier, enquêter, sensibiliser sur les lieux d'encampement des personnes exilées à travers le monde. Rima Hassan conseille aussi le groupe L'Oréal sur les enjeux d'insertion professionnelle des réfugiés dans tous les pays où le groupe est implanté. Alors, L'Oréal a cessé sa collaboration avec Rima Hassan depuis le 7 octobre, où elle a tout de suite pris parti contre Israël. Voilà. Et donc, elle incarne totalement ce virage, ou en tout cas ce choix du tout Gaza, de la France insoumise pour les Européennes. Ensuite, vous avez le discours. Alors, le discours, c'est la banalisation d'un abus de langage. Le mot de génocide. Enfin, je veux dire, on a le droit de s'insurger contre ce qu'on peut considérer comme une réponse militaire excessive des Israéliens à Gaza. On peut tout à fait en débattre. Mais ce n'est pas un génocide. Les mots ont un sens. Et vous voyez, le problème, c'est que la répétition impose le débat et donne corps, finalement, à une réalité qui n'a pas lieu d'être, en réalité. Et c'est toujours pareil en politique, les faits ne comptent pas, seules les perceptions. Voyez. Et donc la France insoumise joue cette carte-là. Ensuite, vous avez l'agitprop. Alors là, on en vient à Sciences Po, on en vient à ce qui se passe à la Sorbonne depuis aujourd'hui, où Jean-Luc Mélenchon est tellement chez lui qu'il a cette phrase ahurissante quand il tient sa conférence mardi dernier dans cet amphi Boutmi, rebaptisé amphi Gaza, il dit « C'est lui qui souhaite la bienvenue aux gens qui ne sont pas acquis aux idées de l'insoumission. Vous êtes les bienvenus. »
Il est chez lui.
C'est extraordinaire. Ouais, voilà. Et vendredi, donc pour l'occupation des locaux de Sciences Po, le matin, vous avez qui viennent Thomas Porte, Antoine Léaumont, Emery Caron, donc ceinturés de leur écharpe tricolore de députés. Ils viennent comme ça distribuer les brevets d'insoumission aux uns et aux autres en disant « vous êtes la fierté de ce pays », etc. Dernier point, c'est la victimisation. Alors je parlais tout à l'heure des coups qu'envoie la France insoumise à ses adversaires. On pense par exemple au procès que Rima Hassan intente aux uns et aux autres, au fait que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas de ses adversaires mais de ses ennemis. Il y a les coups reçus. Alors les coups reçus, c'est par exemple le meeting de Lille, annulé la semaine dernière à la fac de Lille. Rima Hassan, elle a cette phrase très intéressante. Après l'annulation de la conférence sur la Palestine avec Jean-Luc Mélenchon à la fac de Lille, elle dit à la tribune, parce que vous savez, ils ont pris la parole sur une petite placette, et elle dit, Rima Hassan, j'ai toujours su que parler du sujet palestinien tôt ou tard allait me coûter. Depuis le 7 octobre, je me sens comme beaucoup d'autres voix, pourchassée, non pas pour ce que je dis, mais pour ce que je suis. Et nous devons dénoncer le racisme qu'il y a aussi derrière ce sujet. Magnifique phrase de victimisation, vous voyez. Ce qui permet aux insoumis, derrière, de dénoncer au passage sur le thème de la liberté d'expression. On en avait parlé avec Mathieu Bock-Côté sur ce sujet. Et lui, pour une fois, exceptionnellement, pour le principe, avait pris fait et cause pour les insoumis, qui disent « macartisme à la française, on nous bâillonne, notre programme politique est interdit pour des raisons politiques ». Et évidemment, c'est facile pour eux de dire cela dans le contexte actuel. Voilà. Et encore mieux, on va avoir demain la convocation par la police pour apologie du terrorisme de Mathilde Panot et Rima Hassan. Alors là, c'est formidable, cette convocation, ça valide l'insoumission. Vous voyez, la preuve, la police vous convoque. formidable.
Alors, mais est-ce que ça paye finalement au niveau électoral?
Alors voilà, ça, c'est la bonne question. Bah, écoutez, intention de vote Manon Aubry, parce que c'est pas Rima Hassan la tête de liste, elle est à 7-8%. Hein. Donc c'est pas extraordinaire.
Ouais,
elle est dans le niveau de la candidate écologiste. Comment s'appelle-t-elle?
À peine plus que Reconquête.
Voilà, c'est ça. LR, etc. Donc les petits candidats, pas les tout petits candidats, mais les petits candidats, les candidats moyens, les poids moyens. Je note au passage que ça, qui a entendu parler de la NUPES là depuis 6 mois?
Ah oui.
Ça a totalement dynamité la NUPES, cette affaire, ce positionnement stratégique de la France insoumise sur la question palestinienne. Alors moi, la question que je me pose, Jean-Luc Mélenchon, il a vu cette phrase le 17 septembre sur le plateau de BFM TV. Il avait dit « Personnellement, je ne fais pas la NUPES car j'aime les autres. Non, je ne les aime pas. » On vous dit ça de vos alliés quand même. Et derrière, il taclait, j'adore la phrase, une écologie pas anticapitaliste et du jardinage, le socialisme sans révolution socialiste, c'est mignon. Donc Jean-Luc Mélenchon parlait comme cela 2 semaines avant les événements, avant le massacre du 7 octobre. Et donc quelque part, ça se demandait si le 7 octobre n'est pas la porte de sortie que Jean-Luc Mélenchon cherchait pour la NUPES. On note que Gaza isole la France insoumise du reste des forces de gauche. Mm-hmm. La question est de savoir si ça ne va pas se retourner contre eux, dans la mesure où aujourd'hui le vote utile à gauche, le vote refuge pour beaucoup d'électeurs, que toute cette glose de la France insoumise autour de Gaza effraie. Le vote refuge, c'est qui? C'est Raphaël Glucksmann. Il y a un risque en cas de contre-performance de la France insoumise aux européennes, de liquider l'héritage de 2022. Parce que comment vous allez dire aux électeurs derrière, la première force de gauche, ici, c'est moi? Bon, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il fait 22% en 2022. Manon Aubry, 3 ans avant, elle fait 6,3%. La question, c'est, est-ce que vraiment Jean-Luc Mélenchon mise sur les européennes? Je ne pense pas. Je pense qu'il envoie les signaux qu'il faut pour mobiliser en temps utile cet électorat des banlieues, cet électorat de la jeunesse. Ce signal de la cause palestinienne, il l'aurait adressé dans la perspective de 2027. Je précise quand même que 2027, l'élection présidentielle, c'est dans plus de 1000 jours. Et ce n'est pas parce que c'est l'actualité du jour, sera celle dans 3 ans. Donc c'est quand même un pari un petit peu audacieux que fait Jean-Luc Mélenchon.
Merci infiniment pour cette analyse, mon cher Dimitri. On va partir maintenant à Neuilly-sur-Marne. Avec vous, mon cher Marc, un directeur d'école est victime d'être trop républicain, je le disais en titre. Cet homme en poste depuis 15 ans, respecté de tous, est devenu le pestiféré pour avoir simplement souhaité appliquer les mesures du Premier ministre, c'est-à-dire tenter, entre autres, l'expérience de l'uniforme à l'école. Les menaces étaient si terribles que ce matin, il a décidé de ne pas prendre son poste. On l'écoute et ensuite, on vous écoute, Marc Menon.
Bonjour, je suis Nicolas Bourrez, directeur de l'élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes lundi matin et pourtant je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. J'y consacre ma vie. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible.
Marc Menon.
Je suis pris pour cible. C'est terrifiant. C'est-à-dire que, à force de traiter à la légère le multiculturalisme, à force d'être les fossoyeurs de la laïcité, on est confronté au douloureux souvenir de Samuel Paty, au douloureux souvenir de son confrère, M. Bernard.
Dominique Bernard.
Et pour autant, là, cet homme se retrouve seul. Alors, racontons l'histoire. Le maire de Neuilly-sur-Marne. Je connais bien la région parce que j'ai vécu juste à côté de Neuilly-sur-Marne pendant presque 15 ans et j'étais enseignant au collège Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois. On était des voisins. Alors ce coin de banlieue, je l'ai vu évoluer. On était dans les années 70 et les petits arabes, comme on disait, on était en fraternité avec eux, on faisait attention. Et quand on les avait soit dans la cour de récréation, soit au patronage, on leur montrait qu'ils avaient leur place dans notre société. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On les encourage à l'exclusion. On leur dit « vous êtes victimes, vous êtes des humiliés ». Et c'est cela qui ressort. Alors, que fait le maire? Monsieur Zartost Bakhtiari.
Pas facile de prononcer son nom.
Pas facile.
C'est un jeune iranien.
Oui, mais
d'origine iranienne et qui n'a que 34 ans et qui est exceptionnel.
exceptionnel dans la mesure où c'est un garçon qui a de l'enthousiasme et qui a pris la proposition du Premier ministre dans une ville qui a été tuméfiée par les événements de juin l'année dernière. 2 millions de dégâts, la médiathèque, pof, emportée, les 7 voitures de police brûlées et, bon, cette dette énorme, 2 millions. Et il sent bien qu'il y a des tensions. Et quand je vous parle de ces années 70, où dans cette région, il y avait plutôt une bonne osmose, on ne parlait pas de communautarisme. On était simplement dans cette idée d'une république qui cherchait à faire en sorte que tout à chacun ait sa chance. Aujourd'hui, c'est plus cela. Alors que fait-il ? Ben pour essayer, dans le quartier en question de cette école, André Chénier, qui a été particulièrement touché par les émeutes, où il y a ces tensions d'exclusion, il dit « si demain on appliquait la méthode Attal, pourquoi pas ? Et allons jusqu'au bout. C'est pas uniquement d'interdire la baïa, non, on va mettre l'uniforme. C'est pas de la discrimination, en l'occurrence, uniforme. C'est de dire, voilà, certains se sentent humiliés, certains se sentent ne pas appartenir à la République. Faisons en sorte que tous les enfants puissent se regarder dans cet esprit républicain qui est en place depuis 2 siècles maintenant.
Je ne sais pas si vous allez le dire, Marc Menant, mais moi, le rôle de l'éducation nationale dans tout ça...
Ah ben attendez, je vais vous le dire.
Pardon, je suis trop...
Non, non, c'est-à-dire, que fait-il ? En plus, il se comporte en démocrate. Il organise un référendum. Alors ses opposants disent « référendum, c'est pas un référendum, ça s'est pas déroulé selon les normes du référendum bah, ». C'est une bonne blague. Il est là, il consulte les enseignants, il en parle aux parents d'élèves et il fait passer aux uns et aux autres une petite motivation de la décision qu'il suggère, à la fois donc porter l'uniforme. Il y a 68% de votes favorables. Alors, on l'adopte et il y a 4 écoles, dont l'école André Chénier, qui dit « nous allons l'appliquer ». Et là, eh bien, on a un comité de défense de l'école publique de Neuilly-sur-Marne. Oh, qui s'outrage ! Mais c'est impossible, vous vous rendez compte de scandale ? Où est le scandale ?
Mais en plus, il y a, vraiment, comme vous dites, il y a plusieurs endroits dans France que vous avez testé.
Et puis là, c'est quand même formidable, dans un pays qui connaît tant de déchirures. Mmh. Et Neuilly-sur-Marne fait partie de ces communes très meurtries, ces communes où il y a ces divisions. De dire à l'école, si on pouvait essayer de pacifier l'ensemble. Bien, vous avez un comité de défense de l'école publique qui soudain dit « c'est terrifiant ». Alors, ils ont même des accusations très virulentes à l'égard de M. Nicolas Bourrez. En particulier, il a écrit dans Causeur, voilà, comment peut-on, M. le maire, autoriser un directeur d'école qui est là depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'il est dans cette petite école où il essaie d'instiller le désir du savoir aux jeunes enfants.
Donc voilà les vraies raisons.
Eh bien, il écrit dans un journal d'extrême droite. C'est quoi un journal d'extrême droite ? C'est la presse qui dit que c'est un journal d'extrême droite. Ils ne peuvent même pas le justifier eux-mêmes. Ils sont obligés de prendre un titre générique. La presse qualifie Causeur d'extrême droite. Comment pouvons-nous autoriser un directeur à écrire dans et de faire part de son obsession anti-musulmane ? C'est quoi l'obsession anti-musulmane sous la plume de ce directeur ? Qui cherche simplement à être un bon directeur républicain. Il a écrit « L'entrisme politique de l'extrême gauche est déjà très important, notamment dans les salles de professeurs ». Bah oui, parce qu'il y a des professeurs qui sont pour le multiculturalisme. Il y a des professeurs qui ne veulent pas entendre parler de cet esprit qui est pourtant l'anticléricalisme de ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire qu'à l'école républicaine, il fallait bouder et bouter tout ce qui pouvait être symbole religieux. C'est pour ça qu'il y a eu la loi de 1905 que l'on a déshabillée aujourd'hui, que c'était cette loi où on ne voulait plus que les signes religieux apparaissent partout. Alors aujourd'hui, on veut qu'il y ait le temple de la laïcité, c'est uniquement les écoles. Et là, il cherche cette application et il devient le pestiféré. Mais vous vous rendez compte de la conscience de ces gens-là ? C'est qu'il y a les exemples de Dominique Bernard, Samuel Paty, sans oublier Charlie Hebdo et tous ceux qui sont victimes aujourd'hui dans les rues. On parlera tout à l'heure avec Gabriel, là encore, de ce qui s'est passé ce week-end à Bordeaux, l'Afghan qui jaillit sur deux jeunes musulmans simplement parce qu'ils ne respectent pas le ramadan. Eh bien donc, dans cette société-là, vous avez des personnes qui vont mettre une cible sur un directeur d'école en le menaçant. Et alors, quelle était la réaction de l'Éducation nationale ? Rien. Alors, Madame Nicole Belloubet, quand elle voit que Marion Maréchal lui dit « Mais vous ne manifestez pas, je ne vous ai pas attendu pour répondre. » Eh bien, sauf qu'elle n'a pas attendu. Mais il n'y a pas eu de réponse, alors que le directeur a écrit à la direction des services départementaux de l'Éducation nationale, pas de réponse. Le préfet... Pas de réponse, pas de mesure d'un service d'ordre pour protéger le professeur. Pas de nouvelles non plus de toutes les instances officielles. On laisse cet homme dans le désespoir, déambulé dans la rue. Vendredi, jeudi dernier, il est allé à l'école.
Merci.
En étant dans cette angoisse qui est derrière mon dos. Vous rendez compte ? Ce que l'on fait subir à ce professeur qui est là depuis 15 ans et qui était toujours, disons, admiré par ceux dont il s'occupait, par les enfants et les parents qui le louaient.
J'ai une question à vous poser, petit tour de table rapidement. La France se couche dans les universités, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure. La France se couche à l'école, la France se couche dans le monde. On va le voir tout à l'heure avec l'arme nucléaire. C'est quand même assez surprenant, je veux dire, avec tous les exemples qu'on a déjà eu, Dimitri, et ensuite Guillaume, on fait un tour de table, c'est quand même assez surprenant que cet homme n'arrive même pas à aller à l'école aujourd'hui.
Mais c'est ça, moi, ce qui me frappe, c'est la répétition des événements. On a eu Ravel, maintenant, voilà. Et ça devient... je pense qu'en plus...
Et on a l'impression, pardonnez-moi, malgré la bonne volonté... Je fais l'avocat du diable, mais la bonne volonté du Premier ministre, Gabriel Attal.
Non, mais le Premier ministre, c'est pas à lui de traiter ce genre d'affaires. Il y a un problème systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont vu qu'on pouvait menacer, qu'on pouvait faire partir des gens en faisant pression sur eux. Eh bien, ça se répète, parce que ça fonctionne. On voit que ça se fonctionne. On a annulé les examens à la Sorbonne aujourd'hui parce qu'il y avait une dizaine de tentes devant la Sorbonne. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du pouvoir des petites minorités. Ben, c'est ça, le pouvoir des petites minorités. On peut détruire des carrières, on peut détruire des gens. Cet homme, il va y penser pendant longtemps.
Et on pense aux proviseurs aussi, dont on a parlé. Guillaume ?
Il y a un phénomène d'impunité. Évidemment qu'à partir du moment où ils menacent, et eux-mêmes en menaçant et en étant violents et agressifs, n'éprouvent aucune crainte à l'égard du système, et ils ont raison de ne pas éprouver de crainte, pourquoi se retiendrait-il ? Effectivement, donc il y a une disproportion entre la menace qu'ils font peser et la menace qui pèse sur eux en raison de la loi. C'est le premier point. Et pour faire le lien avec le sujet Sciences Po, je pense qu'il y a une véritable erreur système. C'est-à-dire que dans la tête de nos dirigeants, tout le système est irrigué par « venez comme vous êtes », vraiment le multiculturalisme et le communautarisme irriguent profondément la pensée des dirigeants. Et donc quand ils vendent la laïcité, ils vendent une laïcité qui est en totale contradiction avec cette idée anglo-saxonne.
« Venez comme vous êtes », mais dans le cadre du respect de la France, Gabriel.
Non, mais évidemment, moi, ce qui me frappe, c'est le tweet de Nicole Belloubet qui dit « On ne vous a pas attendu », dit-elle à Marion Maréchal. Bah, si, un peu visiblement, puisque avant que Marion Maréchal en ait parlé, c'était pas un sujet. Donc, c'est un peu problématique que les sujets soient toujours réglés quand ils sont sous les feux médiatiques ou pris à bras-le-corps par l'opposition. C'est pas cela qu'on attend d'un gouvernement.
Et là, derrière, ce comité de défense, il y a LFI encore. Mais ces gens, c'est terrifiant. Parce qu'ils oublient que le professeur Redeker, depuis 10 ans maintenant, il est sous protection policière pour avoir écrit des papiers d'opinion sur l'entrisme musulman, islamique, je dirais.
Finalement, quand vous ne croyez pas totalement vos propres valeurs, vous n'avez pas l'énergie et le courage de les faire appliquer.
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre regard. Et la France se couche aussi. Peut-être dans le monde, avec cette volonté de partage de l'arme nucléaire. On en a déjà parlé avec Mathieu Bock-Côté, mais là, le président de la République en a encore parlé. On ne va pas laisser passer sans pouvoir analyser un peu tout ça. Gabriel Cluzel, on va ouvrir une page douloureuse aussi, avec vous. À Châteauroux, dans l'Indre, ville où son père exerce le métier de restaurateur, Matisse, 15 ans, lui-même apprenti cuisinier, a été poignardé dans la rue, par un Afghan du même âge que lui. Que s'est-il passé ?
Alors, moi j'étais très émue par un témoignage qui est paru dans la presse. Une riveraine qui a assisté du haut de son immeuble à la scène explique avoir entendu qu'il disait qu'il avait mal au dos et qu'il avait froid. Quelle mère d'adolescent peut lire cela sans pleurer ? Donc je crois que le premier sentiment que nous devons exprimer, c'est celui d'une profonde compassion pour les parents. Et pour ma part, j'ai aussi une pensée, je ne sais pas si elle nous écoute, mais je sais que c'est une fidèle téléspectatrice de CNews, c'est même ainsi qu'elle m'avait contactée, pour Régine Bonnet, qui est la grand-mère de Timothy, qui était lui également apprenti cuisinier, très brillant. Il avait le droit de faire un stage pour cela dans les cuisines de l'Élysée, qui a été assassiné en 2019 à 19 ans par un demandeur d'asile afghan. Alors je sais que sa peine profonde avait été encore augmentée par le fait que, déclaré irresponsable, le meurtrier de son petit-fils n'a pas pu être jugé. Je suis persuadée que les faits d'aujourd'hui, qui par certaines similitudes doivent raviver sa peine, sont spécialement importants pour elle. Donc je voulais dire ces mots.
Pardonnez-moi, et pourquoi est-ce qu'il a été déclaré irresponsable ?
Parce qu'il n'était pas en possession de ses moyens. Vous savez, c'est toujours l'argument psychiatrique.
En tout cas, on a remarqué, Gabriel Cluzel, qu'il ne faut pas poser la question de l'origine du meurtrier.
Oui, comme avec Thomas à Crépol, comme avec Lola à Paris, il y a un double contre-feu d'intimidation et d'inversion accusatoire qui a été très vite mis en place pour réduire au silence ceux qui auraient des velléités de s'interroger. Alors il y a tout d'abord l'inversion accusatoire portée contre la victime elle-même, relayée sans distance par certains médias. Et cela pose réellement question. Le suspect, appuyé par des témoins, qui sont-ils ? A rapporté avoir reçu un coup de poing de la victime et des insultes. Fils de Ben Laden, fils d'Afghan, et retourne dans ton pays. Donc vous voyez, c'est exactement comme Thomas. On note que Matisse est accusé par son bourreau présumé d'être raciste. C'est vraiment l'inversion accusatoire dans toute sa splendeur. Et on se souvient sur un autre sujet que les barbares de Grande-Synthe sous-entendaient, eux, que Philippe était pédophile. Et évidemment, sans que les victimes et pour cause puissent se défendre. En attendant, c'est Matisse, comme Thomas et Philippe, qui ont été tués, et c'est son agresseur et l'agresseur de Matisse, et non lui, qui a déjà été visé dans deux procédures liées à des vols de portables sous menace d'un couteau, assorti pour l'une d'elles à une mise en examen et un contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire, comme on voit, d'une efficacité remarquable. Alors, rajoutons précision supplémentaire vraiment sordide, que la mère du présumé coupable aurait emmené son fils en voiture jusqu'à sa victime, lui permettant ainsi de le poignarder, et qu'elle aurait ensuite, selon des témoins, elle-même giflé Matisse alors qu'il était déjà blessé. Donc elle le sait déférer devant le juge ce soir, comme son fils. Mais je voulais simplement faire une remarque. On voit que sur les sujets de la violence des mineurs, le gouvernement est vraiment à côté de la plaque quand il parle de parents dépassés. Les parents ne sont pas toujours dépassés. La preuve, ils sont même complices parfois et acteurs. Donc c'est le logiciel du gouvernement, visiblement, plutôt qui est dépassé.
Pourquoi, Gabriel Cluzel, cette injonction à la non-récupération qui revient à interdire tout commentaire sur l'origine du meurtrier et qui ne tient pas ?
Oui, cette injonction est tellement forte que certains médias s'auto-censurent. Le Monde, par exemple, a rapporté les faits dans son premier article sans donner la nationalité du présumé meurtrier, comme si elle n'avait aucune importance. Alors, c'est vrai que le père de Matisse a communiqué il y a quelques minutes, je crois, en disant de faire attention à tous les bords, de droite et d'ailleurs. Pardon ?
Sur RTL, effectivement.
Sur RTL, voilà. Et qui s'approprie ce genre de choses. Et il finit en disant... Je cite pour Matisse, qui était un vrai gentil, soyez pareil. Mais cela n'interdit en rien d'évoquer l'origine du meurtrier présumé, car évidemment la question de sa présence sur notre sol et d'autres individus de son acabit intéresse et concerne chacun. Il en va de la sécurité de nos enfants. Précisons d'ailleurs que quand la justice est rendue, elle n'est pas rendue seulement au nom des victimes, elle est aussi rendue au nom du peuple français. C'est toute la France qui est concernée. Et je rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, que La France a déjà donné 90 de ses soldats en Afghanistan pour que l'Afghanistan retrouve la paix. Alors, d'aucuns diront que ça n'a pas été une réussite, mais je crois qu'il ne faut pas occulter leur sacrifice. C'est un combat qui aurait dû être mené par les Afghans eux-mêmes, en principe. La France a vu ses soldats tomber là-bas et voit ses enfants tués ici par des réfugiés afghans. C'est vraiment double peine. Alors que ces drames aient une dimension politique, c'est normal, je dirais même que c'est essentiel et c'est même important que les politiques s'en saisissent, puisque la question de l'accueil des réfugiés est éminemment politique, décidée par des politiques. Et vous vous souvenez en particulier, après l'accession des talibans au pouvoir en Afghanistan en 2021, on cite souvent l'exemple de Clémentine Autain ou de Sandrine Rousseau, qui elle est vraiment allée dans l'extrême, mais qui appelait à l'accueil inconditionnel des réfugiés, même les plus dangereux, parce que ça permettrait de les surveiller. Mais c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, néanmoins, qui l'a décidé. Dans un tweet, le 17 août, ça s'appelait encore Twitter, je crois, 2021, Gérald Darmanin s'était félicité d'ouvrir grand les portes aux réfugiés afghans souhaitant fuir le nouveau gouvernement. Il avait même rajouté, comme si c'était un titre de gloire, que depuis 2018, les Afghans étaient les premiers bénéficiaire du droit d'asile en France. Et c'est sur votre antenne, Dimitri, au micro de Sonia Mabrouk, quelques jours après ce tweet, que Didier Lesky, le directeur général de l'Office français d'immigration, il avait confirmé tout cela. Il avait d'ailleurs dit que le français était le pays le plus accueillant, bien plus que l'Allemagne, que les déboutés partout en Europe revenaient frapper en France. Et c'est bien une déposition politique volontaire, puisque Sébastien Kurz, on s'en vient, l'Autrichien, lui, avait décidé de ne pas accueillir de demandeurs d'asile afghans.
Alors, je suis en train de me dire que sous OQTF, il y a des problèmes, sous statut de réfugié, on l'a vu à Bordeaux. Il y a des problèmes, je crois que c'était Bordeaux, que ce soit en situation régulière, parce qu'il est en situation régulière.
Ses parents sont en situation régulière, oui, si. Je ne sais pas du reste quand il est encore, je n'ai pas encore l'information, je l'ai cherché, quand il est arrivé en France.
Ça pose tellement de questions. Et autre question, Gabriel Cluzel, tous les Afghans, ils ne posent pas de problème, ça aussi, il faut le dire.
Bien sûr, vous avez raison, mais comment imaginer, quelle naïveté peut permettre d'imaginer qu'un peuple qui en 2013, à l'occasion d'un sondage du Pew Research Center, se déclarait à 99% pour la charia et à 85% pour la lapidation en cas d'adultère, s'adapterait par l'opération du Saint-Esprit, simplement par le simple fait de passer la frontière à nos mœurs. Alors notons pour l'anecdote que ce sondage que je vous livre a été critiqué quand il est sorti par la gauche. Vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'ils ont dit que dans l'échantillon, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Pardon, mais si ce n'était pas aussi tragique, ce serait risible. C'est sûr que les femmes à Kaboul, dans les grandes villes, notamment Kaboul, on en rencontre très peu parce qu'elles sont avec une burqa grillagée. Et dans les campagnes, on n'en rencontre carrément pas du tout parce qu'elles, elles sont recluses chez elles, dont il n'y en a pas dans l'espace public. Et puis notons qu'en de toute façon, nous recevons massivement, et même très massivement, des hommes. Donc c'est leur avis qui est spécialement intéressant. Alors à quoi sert la charité si elle n'est pas sortie de la prudence ? La politique d'accueil binaire, façon Gulli ou le journal de Mickey, parce que c'est exactement ça. Si tu n'es pas un méchant, tu es donc un gentil. Si tu es contre les talibans, tu es un pauvre réfugié inoffensif. Eh bien c'est irresponsable. L'État islamique est contre les talibans, mais convenons, je pense autour de cette table, et y compris dans toute la France, qu'ils ne sont pas pour autant des gentils. Alors sans parler, bien sûr, ça c'est encore un autre sujet, des troubles psychiatrique prégnant, induit par des dizaines d'années de guerre.
Ce drame se trouve à la confluence de l'impéritie migratoire et de celle judiciaire. Gabriel.
Exactement. Alors, je ne sais pas quand il est, encore une fois, parce que je ne veux pas dire de bêtises, quand ce garçon et sa famille sont arrivés en France, était-ce en 2021 ou avant. Simplement en 2021, le maire de Châteauroux s'était déclaré scandalisé de devoir accueillir en urgence des migrants, notamment afghans, en provenance de régions parisiennes. Donc ça, nous ne le savons pas. Mais comment imaginer qu'un adolescent issu d'une culture dans laquelle la lapidation fait partie de l'arsenal juridique, puisse trouver dans un contrôle judiciaire, un rappel à la loi ou toute autre sanction de notre justice des mineurs, un caractère punitif ou dissuasif. Et ne parlons même pas des internats présentés il y a 10 jours par Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti, avec des attestes liés d'estime de soi et des visites d'exposition sur Tintin. Moi, je ne sais pas, pense-t-on vraiment que ce dont manquent les jeunes violents ou en décrochage dans notre pays soit l'estime de soi ? Ce n'est pas mon avis.
Je vous sens très remontée, Gabriel. Et vous et la France avec vous. la France avec vous sur ce sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ce meurtre de Matisse, Guillaume Bigot?
C'est complètement insensé de d'abord d'être resté aussi longtemps en Afghanistan et ensuite de faire venir des gens d'Afghanistan. Quand on connaît un peu ce pays, c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'État. On est dans une structure qui n'est même pas celle d'un État...
Est-ce que, pardonnez-moi,
il y a un choc des cultures complet.
Il y a un choc des visiteurs
à l'envers. Si
mais est-ce que la France peut renier aussi sa capacité d'accueil des réfugiés? Parce que là, on voit que c'est un statut de réfugié. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, bien sûr. Mais s'il y avait des opposants politiques qui défendaient les idées qui sont compatibles avec la France, des idées de démocratie, des idées de droits de l'homme, bien sûr qu'il faudrait les accueillir. D'ailleurs, on a aussi accueilli les gens qui ont aidé l'armée française sur place. Mais une fois que le gouvernement taliban a pris le pouvoir, de toute façon, ceux qui avaient des passeports, ceux qui pouvaient bénéficier de passeports, n'étaient quasiment que les proches des talibans. Il fallait être un taliban. Tous ceux qui arrivent, de toute façon, ils sont passés par la case taliban.
Dimitri, la France, si elle était forte face à l'accueil.
J'entends bien, mais dans cette histoire, moi, il y a d'autres ingrédients qui me... C'est toujours les mêmes, quoi. Le couteau, la violence d'un mineur de 15 ans qui organisait des guet-apens via Internet. Ça ne vous rappelle rien? C'est l'histoire de Philippe aussi. Il y a aussi le fait qu'il était déjà mis en examen pour une autre affaire, avec derrière une justice extrêmement clémente parce que c'est un mineur.
Parce qu'il est mineur.
Vous voyez, ce sont toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. Mmh. En fait, c'est ça que je trouve épuisant, terrifiant.
Désespérant.
Inquiétant. Désespérant. Donc je ne pense pas qu'il faut résumer à la nationalité. C'est un ingrédient parmi d'autres d'une équation dont on voit que ça prend des proportions. Je veux dire, c'est tous les jours en ce moment qu'on parle de ça. C'est tous les jours. Tous les jours.
Et ça veut dire quoi, accueil? Vous dites à des gens, vous entrez là, vous faites ce que vous voulez. L'accueil, oui, il y a un choc des cultures.
Mais c'est ça, c'est l'accueil et la force de la
France. Il faudrait qu'il y ait des centres d'accueil, non pas concentrationnaires. J'entends déjà le jeune facho. Laissez-moi tranquille. Alors, non, simplement des lieux où on vous explique ce qu'est la France, comment on vit en France, et éventuellement après vous signer en disant, est-ce que vous acceptez de vivre comme ça?
Juste avant de vous donner la parole, le mot de la fin pour votre coup de gueule, préparez-vous. Je vous propose de voir Mathieu Bocoté. Il n'est pas là, il nous manque cette semaine, il reviendra la semaine prochaine. Monsieur est au Québec, regardez-le. Il nous envoie une petite carte postale, il aurait pu envoyer le drapeau de la France. Mathieu, voilà. On l'embrasse très fort, on attend la photo de Charlotte, à suivre certainement plus tard ou demain. Guillaume Bigot, dernier coup de poing ce soir, au coup de gueule, comme vous préférez. Vous êtes en colère, déclaration suite à la déclaration d'Emmanuel Macron qui envisage de mutualiser l'arme nucléaire. Pourquoi?
Avant de me mettre en colère, il faut quand même qu'on... Il y a un problème technique dans cette affaire de mutualisation de l'arme nucléaire. En fait, l'arme nucléaire française, c'est une arme stratégique. C'est-à-dire que c'est une arme dans une dissuasion dite du faible au fort. C'est une arme qui est capable de produire des dégâts considérables. Donc c'est une arme de dernier ressort. C'est pas une arme faite pour être utilisée. Et donc c'est une énorme bombe, si vous voulez, par rapport à ce dont dispose la Russie et ce qu'est capable d'utiliser d'ailleurs la Russie sur le terrain, qui sont des bombes dites tactiques. Ce sont des armes nucléaires tactiques. Elles font d'énormes dégâts, mais c'est plus limité. Les Américains ont des armes tactiques. Donc s'il y avait une escalade nucléaire, par exemple, en Ukraine, les Américains pourraient utiliser une arme tactique. Déjà, notre bombe, elle ne sert à rien par rapport à cette situation. Donc déjà, c'est absurde. Premier point. Deuxième point absurde de manière technique, c'est que la dissuasion nucléaire, elle n'est possible que parce qu'il y a une personne et une seule qui décide au moment opportun, parce que quelqu'un qui va nous agresser au point où on déclenche une riposte nucléaire, c'est pas quelqu'un qui va envoyer une lettre recommandée, vous imaginez bien. Donc, ça veut dire que quelqu'un est capable d'appuyer sur le bouton immédiatement. C'est pour ça que vous voyez des gens, des officiers généraux en général, qui se promènent avec des mallettes contenant des codes cryptés, etc., pour déclencher le feu nucléaire, à tout moment par le chef de l'État. Il n'y a pas d'autorisation du Parlement, par exemple. Donc là, imaginez, à 27 doigts sur le bouton nucléaire, mais on se moque de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir le Parlement européen qui va avoir un vote, puis le Conseil européen, la majorité qualifiée, la majorité des deux tiers, puis ensuite la Commission européenne, ils vont faire un rapport. Tout ça n'a strictement aucun sens. Donc soit le président Macron ne comprend rien à la dissuasion nucléaire, c'est gênant parce que c'est lui qui a le feu nucléaire, donc je n'y crois pas, soit il se moque de nous.
Toutefois, le président Emmanuel Macron n'a pas dit que notre arme nucléaire devait servir à protéger nos voisins. Il a simplement appelé à un débat sur la mutualisation européenne de notre arme nucléaire.
Oui, c'est très vrai, mais c'est déjà beaucoup trop, finalement. C'est François-Xavier Bellamy qui a dit un président ne devrait pas dire ça, devrait même apprendre à se taire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour que la dissuasion fonctionne, elle doit inspirer la crainte. Pour inspirer la crainte, elle doit reposer sur le silence et sur l'incertitude maximale, en réalité. Alors, l'incertitude, elle est limitée parce que si jamais quelqu'un venait à détruire Paris, on est certain de la riposte. On a des sous-marins qui tournent. Bien sûr que l'agresseur serait rayé de la carte par nos armes nucléaires. Évidemment. Mais enfin, en dehors de ce cas extrême, il y a un flou. On ne sait pas. Et c'est tant mieux qu'il y a un flou. Et lorsque le président Sarkozy a dit que l'arme nucléaire française servait aussi pour les voisins européens, c'était déjà trop en dire. Parce que moins on en dit, et plus c'est dissuasif. Là, est-ce que si Rome est attaquée, ou Rome est rayée de la carte, est-ce que oui ou non, on va riposter avec du nucléaire? Peut-être, peut-être pas, mais c'est mieux justement de rester dans le flou. Emmanuel Macron, il a fait plus que reprendre cette idée de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que la Banque française pourrait protéger les États européens. Il a dit, on va ouvrir, en effet, votre question est juste, on va ouvrir un débat. Mais si on ouvre un débat, c'est donc qu'il n'y a plus de flou, précisément. C'est que précisément, on ne va pas utiliser la dissuasion nucléaire. C'est exactement comme cette folie d'envoyer des hommes au sol après pour dire qu'on ne va pas le faire. Ça n'a aucun sens.
Et en 10 secondes, pourquoi il a dit ça, pour terminer ?
D'abord parce qu'il adore qu'on parle de lui, parce qu'on est en campagne électorale, mais surtout qu'il prépare son grand bond dans le saut post-national, post-étatique, post-démocratique européen. Si on cherche une preuve qu'il veut effectivement passer par pertes et profits la France, on l'a en réalité. On l'a, cette bombe. C'est plus qu'une bombe sémantique, c'est plus qu'une bombe politique. On connaissait la bombe à neutrons ou la bombe H, si vous voulez. Là, on a la bombe E, c'est la bombe européenne, c'est la bombe d'Emmanuel Macron. Il veut vitrifier ou atomiser la République française.
Il y a une question que j'ai envie de vous poser, vous me répondrez demain. Comment faire pour empêcher, ou bien est-ce que nous, petits concitoyens, ou les Français, qui ne veulent pas partager l'arme nucléaire, est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Comment faire? Ouh, ça reste en suspens. L'heure des pros 2, tout de suite. À demain. Tu l'aimes dire quelque chose?
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.